Une artiste engagée, voilà comment on pourrait définir Claire Roignan. Après avoir sorti son EP, Haute Dame, il y a 2 ans, ce dernier faisant écho aux violences faites aux femmes et à la condition féminine en général dans notre société. Elle nous revient en 2023 avec son nouveau titre, Ego, aux sonorités bien plus estivales. Nous avons échangé avec Claire sur la genèse de ce titre, mais aussi sur bien d'autres sujets, et c'est à découvrir dès à présent. Et on vous prévient, avec Ego, on prend le risque de l'aimer un peu trop. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast Normand. Aujourd'hui, je suis avec Claire. Bonjour.
Bonjour.
Première question que je pose à tous mes invités, where is Brian?
À l'église brasserie Saint-Nicaise.
Et alors, pourquoi tu as choisi qu'on se retrouve ici? Quelle signification a ce lieu, particulièrement pour toi?
Eh bien, j'ai tourné le clip Ego, de mon titre Ego, à l'intérieur de cette église. Donc, c'était important pour moi qu'on se retrouve ici.
Oui, parce que je l'ai pas précisé, parce que ça sera précisé dans l'intro, mais je vais le redire histoire qu'on soit clair. Tu es chanteuse et donc tu as sorti le 23 juin dernier, si je ne m'abuse, si je suis toujours bon avec les dates, ton nouveau single Ego, dont tu vas nous parler dans un instant. Mais déjà, je voudrais un peu revenir, parce que c'est ce que j'entends en ce moment. Donc, à côté en fait d'être chanteuse, que fais-tu dans la, j'allais dire vraie vie, mais dans la vie tout simplement?
Alors avant, je faisais que de la musique. La période qu'on a tous connue, qui est une période horrible et qui est très loin derrière nous,
espérons-le,
qui s'appelle le Covid.
Ouais.
Donc a fait que j'ai eu un autre métier aussi à côté de chanteuse, qui est chef de projet communication événementielle.
Je sais pas si on peut le dire ou pas, pour le département de la Seine-Maritime.
Oui, je travaille pour le département de la Seine-Maritime.
Et donc, alors, ça fait combien de temps que tu exerces cette activité de chanteuse?
Oh là là, alors, ça fait longtemps, on va dire que, en amateur et dans mes tout débuts, voilà, j'ai commencé à 4 ans,
ouais.
Et puis après, plus professionnellement, on va dire, à l'âge de 20 ans.
C'est une question qu'on forcément on pose à beaucoup d'artistes, donc je vais pas échapper à la règle. Qu'est-ce qui, par exemple, à l'âge de 4 ans, t'a dit « Tac, je veux devenir chanteuse, c'est ça qui m'inspire ». En fait, qu'est-ce qui t'inspire et qu'est-ce qui te transcende en tant qu'artiste?
Alors, je pense que à l'âge de 4 ans, je me suis peut-être pas dit que je voulais devenir chanteuse. Par contre, il était clair que j'aimais chanter et donner de la voix.
Ouais.
Mon papa passait son temps à me dire « Chut, tais-toi, arrête de crier ».
T'avais déjà un talent pour le chant à 4 ans
ou... Alors, bonne question.
C'est ce qu'on te disait.
Le papa n'avait pas l'air de dire ça.
Ouais.
Mais peut-être que c'était plus le fait de s'exprimer. Alors je suis petite, on ne me voit pas là dans le podcast, mais je suis petite.
Il y aura une photo.
Hein, ah, oh là là, donc on va le voir, surtout que tu es beaucoup plus grand que moi.
Ouais, ouais.
Le contraste va être bien marqué. Mais je pense que en fait, la voix, donc on dit que j'ai une voix assez puissante. Je pense que la voix me permet d'être un peu plus grande et je suis assez discrète, assez timide, donc peut-être que ça me permettait de m'exprimer et de peut-être d'exister autrement que par ma taille ou ce que j'imposais, tout du moins.
Je pense que au-delà d'avoir une voix puissante, je pense que tu as un univers aussi bien à toi et c'est ça qui est séduisant.
C'est vrai que l'univers est arrivé peut-être plus tard, et puis même assez, en tout cas l'univers artistique. Après, c'est vrai que cette voix, ce qu'on peut aussi dire signature vocale.
Ouais, c'est le mot que je cherchais.
Non mais comme toi tu cherches, moi je l'ai qui arrive. Quand on parle du coup, chercher, parler.
C'est bien.
On
se complète.
Mais oui, cette signature vocale, est-ce que je l'avais il y a longtemps? Est-ce que c'est venu aussi avec le temps? Ça je peux pas le dire. Je pourrais vraiment pas.
Quand on est artiste, on se sert de son parcours de vie pour écrire, de ses réussites, de ses échecs ou d'autres choses.
C'est vrai que dans ce que tu dis, on dit souvent qu'on apprend en tombant, donc on apprend aussi beaucoup, on retient plutôt quand les choses se passent un peu, enfin en tout cas potentiellement avec douleur ou
Ouais.
avec ou dans les échecs ou.
Finalement, pourquoi tu chantes? Au-delà de te dire j'ai un style, j'ai un talent ou je suis capable de chanter, pourquoi tu chantes? Quelle est ta raison première? Quelle est ta motivation première de chanter?
Eh bien, parce que c'est ce qui fait ce que je suis. C'est ce qui me permet d'être. Et c'est une très bonne question parce que c'est important. Je me la suis beaucoup posée. Et je pense qu'en fait, je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que si je ne chante pas, si je n'ai pas, j'aime les gens. Donc, si je n'ai pas de concert, si je ne nourris pas les gens et que je ne me nourris pas par la même occasion, par la musique, par le chant. En fait, je me sens pas bien. Je tourne un peu en rond. Ma vie n'a pas de sens, tout du moins, n'a pas de but. Et je pense que oui, chanter, ça me permet juste d'être et d'être à ma place et de faire ce pourquoi je me sens bien et peut-être pourquoi je suis là aussi, peut-être du coup.
C'est un peu finalement une pulsion de vie, quelque part.
Oui, c'est aussi, ça a été aussi tout le dilemme de ma vie, c'est-à-dire que voilà, les parents veulent souvent qu'on fasse un vrai métier. C'est ce qu'on disait. Alors le vrai métier,
Un vrai métier, ouais.
donc chanter n'était pas un vrai métier, et donc en fait,
Ben
enfin
non.
pour en tout cas mon père.
Il te voyait faire quoi, tes parents, ton père?
Alors mon père trouvait que j'aimais beaucoup à l'époque quand j'étais jeune faire les boutons, coiffer les cheveux, voilà.
La
Donc
coiffeuse.
lui me voyait dans dans des études d'esthétisme. Alors en
Ouais.
plus j'aimais pas l'école, mais en fait Maldon à ce moment-là j'avais des soucis avec, je m'entendais beaucoup mieux que les garçons, voilà. Donc je voulais pas du tout faire ces études-là. Mais non, donc j'ai toujours eu un peu, comme on dit, les fesses entre deux chaises, pour dire ça poliment. J'ai toujours eu un métier à côté de la musique, jusqu'au jour où vraiment j'ai eu un moteur qui a fait que voilà, je me suis dit, on m'a aidé à me dire, Claire, t'es capable et c'est ce que tu veux, donc si tu le fais pas à fond, tu le feras jamais.
C'est ce qui, à chaque fois, quand on parle des métiers passion en général, c'est ce qui a tendance plutôt, en fait, à me fasciner chez les gens, à tel point quand on aime quelque chose, on a l'impression qu'en fait, c'est sa vie.
C'est viscéral.
C'est viscéral. C'est vraiment, c'est ça, c'est une pulsion, en fait, de vie parce qu'on en a besoin. En fait, tu chantes parce que tu en as besoin. J'exerce le métier que j'exerce parce que j'en ai besoin. Et pas que financièrement, d'ailleurs.
Et je pense que c'est la plus belle chose. Alors, quand on a le métier passion, c'est soit. Bah, on vit très mal sa vie parce que on a un travail, entre guillemets, un vrai travail, enfin,
Alimentaire.
oui, alimentaire, et que du coup, on ne se sent pas à sa place, on ne se sent pas bien, on même la dépression, on vit mal les choses. Ce que je peux souhaiter aux gens, c'est d'y aller à 1000% parce que de toute façon, personne ne le fera à notre place,
Bien
personne ne viendra
sûr.
nous chercher pour nous dire.
C'est sûr.
Allez, t'es fait pour faire du journalisme, t'es fait pour être dans les chevaux parce que c'est ta passion. Allez, viens, je t'emmène et tu
Ouais.
vas le faire.
Ouais.
Non, c'est soit il faut foncer
Enfoncer des portes fermées.
oui, voilà, enfoncer les portes fermées. Et puis quand on se rend compte qu'en fait, on peut, enfin voilà, être toi-même. Alors, je suis très mauvaise en expression, je
Non,
garde.
mais c'est finalement, je vais essayer de t'aider à ma manière. Comment essayer d'évoluer dans une société qui veut à tout prix nous mettre dans des standards et qui veut pas qu'on soit nous-mêmes? C'est la question.
Oui, puis c'est aussi la peur qui nous empêche et qui nous empêche parce qu'on a été élevé voilà avec on se met des charges aussi voilà il faut payer le loyer il faut construire une famille
Ouais, c'est sûr.
faut travailler avoir entre guillemets un vrai métier un vrai salaire parce que c'est la sécurité on s'enferme dans des carcans enfin, ça a toujours été ce dilemme-là jusqu'au jour où quand j'ai tout lâché. Pour ne faire que de la musique, alors ça n'a pas été
C'était quand ça?
Donc j'ai travaillé chez Decathlon dans le commerce
Ouais.
et en fait donc je faisais les deux. Et puis alors quand est-ce que j'ai tout quitté? Je suis très mauvaise en date moi par contre. 2016, 2017.
OK.
Et ben voilà, j'ai galéré, hein. J'ai galéré. J'ai un petit garçon, donc
Ouais.
ça ne m'a pas empêché de tout quitter. Au contraire, si je voulais être heureuse dans ma vie.
En fait, j'ai deux questions en une. Est-ce qu'on, quand on n'est pas, je parle du star system et des artistes qui fêtent nationaux, internationaux, qui fêtent des millions de gens, etc. Est-ce qu'on peut vivre de la chanson concrètement?
Complètement, on peut complètement vivre de la musique. Il y a différentes façons de vivre de la musique. Il y
Ouais.
a un peu ce que j'appellerais, et c'est pas péjoratif, hein, il y a un peu l'événementiel. Je dis péjoratif parce que parfois il y a des très bons auteurs-compositeurs qui se retrouvent à faire de l'événementiel et qui s'enferment peut-être dedans parce que c'est ce qui leur donne, c'est ce qui les fait vivre. Mais c'est pas du tout péjoratif. Il y a de l'événementiel. Il y a aussi, voilà, donc qui les fait vivre en tant qu'intermittent du spectacle. Il y a aussi ceux qui font vraiment qu'avec leur compo des concerts et qui font aussi de l'événementiel à côté. Il y a différentes façons d'en vivre,
Ouais.
mais il est tout à fait possible de vivre de sa musique. Je pense que ça met du temps, par contre. Et
Oui.
il faut pas baisser les bras comme dans tout métier
Métier
passion.
passion. C'est la deuxième question que j'allais poser. En fait, ça vient du fait que dans la société, en fait, souvent, on idéalise les choses et on idéalise les métiers en général et surtout les métiers passion qui génèrent par leur nature une exposition quelconque. Quel serait ton message en gros pour dire aux gens, en fait, attention, la réalité d'un métier, ce n'est pas Instagram, ce n'est pas Twitter, ce n'est pas Facebook, c'est aussi des moments de passage qui sont compliqués, quoi.
Mais c'est ça, c'est tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est ce que nous on décide de montrer parce
Ah bon,
que
tu n'es pas maquillée comme sur ton dernier clip en permanence,
et je ne
comme ça?
m'habille pas non plus comme
Tu
ça pour
t'habilles pas comme ça non plus
sortir.
tout le temps pour sortir et aller faire tes courses.
Non, non, mais on choisit de montrer des choses. Et puis, il y a aussi les médias, cette espèce d'exposition, je parlais d'exposition dans les médias, ça sert à crédibiliser un peu quelque chose,
Oui.
mais au final, c'est très éphémère. C'est-à-dire que c'est voilà, on le poste parce que voilà, ça crédibilise quelque chose qu'on a sorti, qu'on a fait. Mais en fait, après ça, je veux dire, il y a comme un passage du désert avant autre chose. C'est-à-dire que c'est pas la vie de tous les jours. Les clips, le clip quand il sort, il est magnifique, il est machin. Quand il a, en tout cas, Ego, quand il a été tourné dans l'église Saint-Nicaise, alors je me suis caillée toute la journée. Hein. J'ai été malade après. Enfin, il faisait très froid. On l'a tourné en mars, je crois.
Ah ouais, d'accord. Ah oui, je pensais que c'était.
On avait les couvertures survie, on avait le
Ah
plaid.
ouais, d'accord. Non.
Ah ouais,
Ah
non,
oui, ah
non.
ouais, tu vois, là,
Voilà.
un superbe exemple. Parce que forcément, on ne s'imagine pas ça du tout.
Et puis attention, hein, il y avait personne pour tenir la lumière. Hein, donc
Voilà.
parfois la danseuse, quand elle pouvait, elle tenait la lumière.
Voilà.
Donc c'est grandiose, c'est extraordinaire, c'est ce qu'on choisit de montrer parce que c'est ce qu'on a envie, parce que on exprime nos idées et notre art.
Ouais.
Mais il y a tout un. La vie est pas rose. Moi, parfois, voilà, je galère aussi à payer aussi parfois mes factures à la fin
Ouais,
du
bien sûr.
mois. Il y a pas
Voilà.
de. Et je pense que ça, même si ça n'arrive plus, il faut pas l'oublier. Faut.
Non. C'est pour ça, bon, lui, il l'a écrit dans un contexte particulier. C'est pour ça que j'adorais cette chanson de Florent Pagny, il s'appelle Ma liberté de penser, où en fait, c'était un des premiers à mettre un croupier dans la fourmilière. Il a sorti ça en 2003. Et effectivement, il était fauché comme les blés, et criblé par les dettes et, comme il le dit, pourchassé par les huissiers. Et parce que c'était un va mettre des premiers un peu un coup de réel. En fait, quand on s'imagine que quand on est une star très connue, eh bien, on ne peut pas avoir de problème d'argent. D'ailleurs, et que finalement de dire qu'à tous les stades, on peut avoir des problèmes financiers ou autres,
Ou
d'ailleurs.
autre, oui, parce que en fait, faut pas oublier que ces gens-là sont humains aussi.
Ouais.
Les présidents, les politiques, les stars,
Non.
les footballeurs, tous ceux qui sont ultra médiatisés sont médiatisés pour des trucs qu'ils font extrêmement bien. Bon, parfois parfois, il y en a d'autres qui sont médiatisés pour des choses qu'ils font très mal. Et il faut
t'as
aussi
des exemples,
peut-être en parler. Ah non, on va éviter les exemples, mais c'est pas leur vie en général.
Ouais.
Ça ne peint pas leur vie.
Non, mais justement, c'est aussi bien de le rappeler. Justement, tu parlais du clip dont j'ignorais totalement les conditions de tournage, donc c'est aussi bien que tu le dis. Justement, est-ce que tu voudrais remercier, parce que j'imagine que tu as une équipe qui t'a entouré pour la réalisation de ce clip, et comme je dis, tu n'es pas toute seule, même s'il y a que toi qu'on voit, et aussi d'autres mains appartenant à d'autres personnes, mais principalement, il y a que toi qu'on voit. Est-ce que tu aimerais remercier des gens?
Bien sûr. Alors, c'est sûr. Les idées viennent, enfin, en tout cas, naissent dans ma tête. Au début, c'est très compliqué puisque j'ai plein d'idées et il faut des gens pour me dire non, Claire, ça va être complètement nul. et c'est pour ça que je m'entoure aussi. Alors voilà, je compose, j'écris, j'ai les idées des clips. Généralement, quand je fais les musiques, que je les écoute, j'ai les idées des clips qui me viennent en tête. Je remercie du coup Félix Aubourg. Qui a réalisé, enfin produit le clip, enfin qui a tourné les images, qui a donné des idées, tout le monde a donné ses idées, la photographe Justine Decroix, Élodie Mansuy au maquillage. Sans ces personnes-là, même si j'avais les idées, j'aurais très bien pu le faire moi-même, mais alors je vous assure que le maquillage aurait été beaucoup moins bien fait. La belle couronne, je l'ai fabriquée.
Ah.
J'ai pris passion à le faire parce que voilà, il y a des choses qui coûtent très cher. Être en autoproduction, c'est aussi ne pas avoir beaucoup de finances.
Tu es en autoproduction.
Je suis en autoproduction, donc mon plus grand plaisir, c'est de pouvoir partager avec les gens qui m'amènent leurs idées, mais surtout quand je peux payer les copains, c'est-à-dire les remercier, faire des bisous, des câlins, ça leur paye pas leur loyer. Donc quand je peux aussi leur donner quelque chose pour leur travail, c'est aussi de la reconnaissance.
Bah, bien sûr.
Parce que eux aussi ont donné de leur temps et de leur art. Donc je remercie aussi David Boutini d'Oliat qui réarrange mes morceaux, qui a fait les premiers clips aussi. On n'était que deux avec David.
Ouais.
Coup de foudre a été fait à deux.
On va y revenir sur celui-là.
Voilà, à deux. Donc, de plus en plus, je m'entoure et ça me soulage aussi et ça, c'est comme un moteur aussi. Je suis le moteur, mais ces personnes sont l'essence ou la graisse peut-être qui va venir graisser ce moteur et qui va me permettre de rouler.
Ce qu'on appelle du travail d'équipe entre les
deux. Ouais. Et puis parfois quand on s'engage auprès des gens, ok, je te prends pour deux clips, tiens, tu me fais un petit devis, machin. Là, quand on dit ouais, ok, après on n'a plus le choix. Donc, la machine est lancée et ça permet de pas avoir peur de lancer son projet aussi parce que parfois le projet on peut le réfléchir très très longtemps dans sa tête.
Ouais.
Et en fait, on décale la sortie, on acte rien. Et c'est bien beau de tout construire dans sa tête.
Pourquoi on fait ça? On le fait parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on veut sortir. Ouais. On dit non, je peux pas me lancer. Ou c'est pour ça. C'est parce que c'est des doutes qui subsistent.
Oui, c'est des doutes. Et puis c'est aussi l'idée de du. Enfin, le mieux est l'ennemi du bien. Quoi.
Ouais.
C'est que on pense peut-être à toujours faire mieux, ou peut-être que là c'est pas le moment, ou peut-être que je vais pas en être capable. Aussi, c'est des doutes. C'est pas parce que voilà, on a sorti un super clip ego que tout le monde voit,
ouais,
qu'en fait il y a pas eu d'énormes doutes qui était là avant et puis qui subsiste encore aujourd'hui. Hein.
Bien sûr. Alors justement, je voudrais parler justement du clip de Coup de Foudre, justement. Tu l'as sorti en novembre 2020, je crois, si ma mémoire est bonne. Bon, en général, ma mémoire me fait pas trop défaut. Mais... Donc en gros, oui, tu l'as tourné sur les toits du CHU, Charles-Nicolle, à Rouen. Je te laisse rappeler à nos auditeurs pourquoi tu l'as tourné spécifiquement là-bas et quel message tu voulais envoyer derrière ça.
Donc oui, sur les listations du CHU de Rouen, où se pose l'hélicoptère, parce que au sein de... du CHU de Rouen, il y a le CASA, Centre d'accueil spécialisé pour les agressions, donc qui accueille les personnes qui sont victimes de violences. Et puis aussi, voilà, au sein des urgences même, on a des personnes qui arrivent pour se faire prendre en charge suite à des violences. Et puis parfois même au sein de ces urgences, on va découvrir aussi que telle personne ou telle personne sont victimes, donc ne sont pas arrivées en disant voilà j'ai subi ça, mais en tout cas on va découvrir que voilà qui s'est passé, voilà ce qui se passe au sein de leur quotidien.
Et donc j'imagine que tu te définis comme une artiste engagée, en tout cas dans ces domaines-là, de la violence faite aux femmes, par exemple.
Oui, alors je pense que voilà, j'ai tendance à toujours un peu me
méfier des termes.
Bah même pas, non, pas me méfier des termes. Mais il y a toujours des gens plus engagés que nous. Oui, cette chanson a un peu défini, m'a aussi défini comme artiste engagée, et c'est ce qui m'a donné aussi une force personnelle, puisque j'ai tourné cette chanson, j'ai écrit cette chanson parce que j'ai moi-même été victime de violence.
Oui.
Donc, le fait d'avoir ce côté, voilà. Personnel, j'ai voulu le transformer en quelque chose d'universel, parce que de parler de moi, que cette chanson ne soit vraiment collée à ma personne.
Parce qu'en
au
fait,
début,
tu parles de
difficile.
Toi en vrai, quelque part.
C'est-à-dire que c'était un peu une thérapie. Elle parle pour d'autres personnes. Je l'ai tournée pour d'autres personnes parce que ça m'a aidée à la rendre publique, cette chanson. Mais au final, oui, je pense qu'au début, elle a été un peu tournée. En tout cas, elle est née de moi, par mon histoire.
Par ton histoire personnelle. Et effectivement, on trouvait que la chanson est un des moyens, un vecteur pour essayer de transmettre, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ça part d'une souffrance vers un message fédérateur.
Oui, et puis la musique, je pense qu'il y a tellement... on n'est pas tous sensibles des mêmes choses. Donc il y a des personnes qui vont aller chez le médecin, qui vont voir, qui vont lire les posters, les flyers, et qui vont tout de suite se reconnaître. Il y a des personnes qui vont lire les mêmes choses et puis qui vont pas du tout se sentir concernées. Des personnes qui vont regarder un film et qui vont se dire... Waouh, mais là c'est moi dans cette situation, qui vont tout de suite s'approprier, enfin se reconnaître dans le personnage et se dire qu'ils vivent ça. Et ben il y a des personnes, c'est par la musique. Mais
justement, en fait, est-ce que justement, j'imagine, tu as des personnes qui t'ont écrit, je sais pas, pour te remercier, pour te dire que c'est ce qu'elles ont vécu.
Tout à fait, il y a des personnes, et même un homme qui m'a décrit, qui m'a écrit son histoire, qui m'a quand même remercié, enfin en tout cas pour cette chanson. Donc il y a d'autres personnes, hein, il y a d'autres personnes qui m'ont écrite pour me raconter aussi soit ce qu'elles avaient vécu, certaines ce qu'elles vivaient. Et qu'elles prenaient conscience et que cette chanson, voilà, leur faisait du bien aussi. Et puis à la fin de ce clip-là, on peut retrouver en fait différents numéros de différentes structures. Et donc, potentiellement, voilà, si tu t'es reconnu pendant la chanson, potentiellement, peut-être qu'il y a des clés. Peut-être que si tu n'arrives pas à t'en sortir seul, voilà, tu peux aller vers ces structures-là.
Justement, c'est très bien de le dire et on va le faire à titre de rappel. Je le referai dans la conclusion, mais je vais le faire là avec ma seule mémoire. Donc, au pire, tu pourras m'aider. Il y a donc le 3919 qu'on peut appeler effectivement si on est victime de violence. Et ce numéro est ouvert 24 heures sur 24 et fait important. Il n'est pas mentionné dans un quelconque relevé de facture ou de communication. Si on n'en a pas besoin, il n'est pas visible. Il y a aussi le CASA, donc des structures aussi où les femmes, les personnes victimes de violences peuvent se rendre en cas de besoin. Et c'est ce qu'on voit aussi à la fin de ton clip. Est-ce que c'est pas le rôle d'un artiste, d'un chanteur, d'un écrivain de justement essayer d'un peu bousculer les biais sociaux traditionnels?
Mais tout à fait. Et je pense même que de toute façon, c'est ce qui permet à l'artiste d'être et d'évoluer et d'exister. Et c'est surtout de se démarquer. C'est-à-dire que je pense que les artistes qui, en tout cas, avancent dans leur art, on ne parle pas de star system, etc., mais les personnes qui évoluent, qui ou tout du moins dans le temps, qui existent encore dans le temps, ouais. C'est des personnes qui sont juste qui sont et qui, à un moment, ont arrêté de se dire ouais, mais ça va pas plaire à machin. Et puis mon père, il aime pas ce genre de musique, donc je vais pas le faire.
Bah, sinon,
et puis,
sinon,
on va
fait.
Me juger. Mais bien sûr. Et puis quand on peut critiquer, voilà, on peut critiquer Jul, on peut critiquer X artistes où on se dit ouais, mais lui, ses textes, ils sont nazes, ils sont nuls. Mais en fait, le gars, il s'est juste peut-être pas pris la tête. Et il a dit oh, c'est super drôle ce week-end. J'ai été sur la plage. J'ai vu un parasol hyper rigolo. Je vais faire une chanson sur les parasols. C'est bête, mais en fait, ouais. Le gars, il est peut-être juste parti du fait de en fait, j'ai envie de faire ça et je m'en fous.
Et puis, on peut pas rester impassible devant le fait que. Qu'on aime ou n'aime pas tel artiste. Bon, t'as pris l'exemple de Jul, on pourrait en prendre d'autres, mais ben, parce qu'en fait, il y a toute une série d'artistes qu'on adore détester, et c'est comme, voilà, je sais bien, mais en fait, ça touche des gens, puisque c'est la réalité purement factuelle des choses, ça touche des gens.
Moi, j'ai fait une chanson sur les violences. Je l'ai fait d'une certaine manière. Ça a touché certaines personnes. Peut-être que ça n'a pas touché d'autres personnes qui étaient dans cette situation. Peut-être que quelqu'un qui va avoir des textes beaucoup plus légers, beaucoup plus une chanson un peu plus joyeuse, mais qui va aussi parler de violence, bah, va peut-être toucher. Les personnes qui ont écouté ma musique mais qui se sont pas reconnues. Ouais. Enfin, personne n'est pas légitime. Enfin, on peut pas dire que quelqu'un est légitime. Ouais, ses textes, ils sont naïfs. Ouais, mais peut-être qu'en effet, ça touche quelqu'un.
Mais en particulier, et en fait, d'ailleurs, en parlant d'ego, c'est quand même un peu. Enfin, en parlant d'ego, ton nouveau single. Alors, voilà, qu'on fasse pas.
Ah ouais, c'est très intéressant. J'aime beaucoup parler d'ego.
De toute façon, on va en parler. Mais à propos d'ego, justement, c'est un peu un style un peu différent. Enfin, moi, je l'ai ressenti complètement comme ça de ce que tu fais en fait habituellement. Pourquoi cette volonté de se bousculer un peu? Tu t'es levé un matin et bon, allez, j'ai un peu en faire un peu un truc un peu estival. Un peu quelque chose qui bouge et puis pour le coup, je peux identifier à d'autres types de sonorités qui ne sont pas ce que tu fais habituellement. Alors, tu t'es levé un matin et je sais pas, t'as eu un problème.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. En effet, c'est complètement différent. Même les textes sont plus légers. Oui. Voilà, même si pour moi, quand je l'ai écrite, c'était assez profond et puis j'avais pas. Voilà, j'ai voulu vraiment faire quelque chose de plus léger et quelque chose de dansant parce que avant d'être une artiste engagée et d'avoir subi des violences, je suis une personne à part entière et une artiste aussi, même avant les violences et avant ça, j'étais déjà artiste. Ouais. Et j'aime les choses joyeuses et j'ai fait des conférences avec mon EP Haute Dame où il y avait des sujets très lourds. Les mots parlent aussi de violence plutôt psychologique, mais j'ai fait pleurer, j'ai moi-même pleuré en voyant des gens pleurer. Ouais. Et voilà, je me suis dit j'ai envie je suis aussi un passeur d'émotions, une passeuse. Et pas passoire.
Non, c'est autre chose. Hein. Moi, je garde tout. Hein. Passeuse, passoire, tout ce que tu veux. Non, pardon.
Je suis aussi une passeuse d'émotions et j'ai aussi envie de voir les gens bouger, danser. Et puis, on peut aussi aborder des sujets compliqués d'autres manières. Alors, j'écris beaucoup plus facilement dans les choses difficiles. Comme on disait, on retient plus quand on est tombé que quand voilà.
Alors justement, le cheminement de l'écriture d'ego, du coup, ça s'est fait comment?
Eh bien, c'est quelque chose que j'ai. Alors on a tous vécu, hein, on a tous rencontré quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui a un problème avec son ego, qui entache des relations de travail, des relations personnelles, des relations amoureuses. On a tous croisé cette personne et peut-être même dans notre famille. Moi, c'est encore un parcours de vie. Ouais, j'ai rencontré une personne qui m'a donné ce refrain. Et puis après, j'ai artistiquement écrit le reste en réfléchissant à comment j'allais construire cette chanson. Mais oui, c'est une rencontre dans un milieu professionnel qui, même pas artistique, parce que je dirais que...
cette personne avait un ego surdimensionné.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Je tairai le nom, je tairai le milieu.
Oui, bien sûr. Sinon, je pense que de toute façon, la personne ne reconnaîtra pas, ne se reconnaîtra
déjà,
pas.
Déjà, si la personne se reconnaît... enfin, si une personne se reconnaît, c'est très étrange, parce que ça voudrait dire qu'elle est très égocentrique.
Non, parce que je vais être honnête avec toi, et c'est la réflexion que je me suis faite, parce que j'essaie d'être le plus honnête et franc possible, c'est qu'en fait, quelque part, sans avoir un ego surdimensionné, tout le monde, en fait, tout à chacun, peut s'y reconnaître, en fait, indirectement, parce qu'on a tous nos passages intérieurs. Alors, certains, je suis d'accord, ont un talent pour le montrer plus que d'autres et d'autres le taisent, mais au final, on a tous et toutes un ego, et au bout d'un moment donné, ça peut arriver à déborder. Donc au final, je pense qu'on se reconnaît tous un peu là-dedans, et il s'agit aussi parfois de l'équilibre du couple, en fait, entre deux égos, quoi.
Tout à fait, et c'est un peu parfois aussi la bataille. De toute façon, si deux égos ne peuvent pas trouver leur place au sein d'un couple ou d'un binôme, ça ne durera pas, puisque si tu peux... Si on a besoin de l'ego, faut en avoir un petit peu, je pense. Même bon, voilà, la confiance.
Sans l'aimer un peu trop.
Sans l'aimer un petit peu trop. Et puis aussi, ça m'a fait penser au fait de ce qui peut être marrant. Enfin, ce qui est marrant, c'est de savoir si la personne s'est reconnue. C'est-à-dire que si une personne se reconnaît, ou si une personne se dit, est-ce qu'elle parle de moi? C'est peut-être que cette personne, déjà, pour se poser la question, a un ego déjà.
Tu l'as déprimé à un nombre de personnes absolument colossal. Félicitations pour ça. Hein.
Alors, je rassure les femmes, c'est une chanson qui n'a pas... enfin, la personne qui m'a inspirée n'est pas une femme, déjà. Vous pouvez toutes vous écarter de cette...
Mais est-ce que tu penses que, justement, des fois, on revient par rapport à un peu ce qu'on disait à la violence faite aux femmes, mais est-ce que parfois, ou souvent même, on tait l'ego des femmes? Parce qu'il y a plus d'insécurité parfois, on peut le ressentir chez les femmes que chez les hommes. Enfin, moi, c'est ce qui m'apparaît.
Est-ce qu'on peut taire un ego? Est-ce que c'est
pression,
pas l'autre, ouais?
Par une forme de pression, sans parler de la pression physique, bien évidemment, tout de suite, mais pression, je sais pas, sociale, morale, éthique, en entreprise, dans la vie professionnelle en général.
Oui, l'ego. Alors, c'est vrai que j'ai du mal à personnifier ce. Enfin, je vois l'ego comme quelque chose, et peut-être que je me trompe. Ma perception de l'ego, c'est plutôt la personne qui le possède qui l'exprime. Et peut-être que ce qu'on écrase chez les femmes, c'est juste un peu leur. Enfin, est-ce que on leur permet moins d'exister? Et est-ce que c'est pas l'ego de l'autre qui leur permet moins d'exister? Mais est-ce qu'on écrase vraiment leur ego, ou alors c'est l'ego de l'autre qui les écrase?
En fait, quelque sorte de quelque chose d'involontaire, en gros.
Ouais. Enfin, c'est pas l'ego de la femme qu'on écrase, c'est l'ego de l'autre qui vient écraser l'ego de la femme. Si on parle d'un homme, par exemple, c'est l'ego de l'homme qui vient écraser la femme.
Ouais, non, mais je...
Vous avez une heure.
Ouais, c'est ça. Ah, mais par contre, je t'avais dit, ouais, tu ressortiras de cette interview, tu te diras, mais mon Dieu.
Non, je vais surtout, malheureusement, me poser beaucoup trop de questions.
Il t'a fait un cours, ce qui est parfois le reproche qu'on peut me faire. Et...
Ah non, non, moi, je j'aime beaucoup ce genre de réflexion, et je passe ma vie à beaucoup trop réfléchir.
Mais je pense qu'en fait, dans ce cheminement, dans cette vie, dans l'époque dans laquelle on vit, tout nous incite un peu trop à surréfléchir.
Ouais, et à nous stimuler. Enfin, tout nous stimule et nous, ouais, à remettre en question des choses, à réfléchir les choses autrement.
Est-ce que tu veux nous enchanter un tout petit peu?
Ego, 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 je t'aime un peu trop. Ego, 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 il te chérisse un peu trop.
Ben voilà, ben merci beaucoup.
Il n'y a pas de souci. J'espère que ça vous donnera envie d'aller l'écouter et pas le contraire. Le podcast était trop bien. Elle parle super bien. Mais alors, par contre, j'ai entendu sa chanson, je dirais pas.
Voilà, c'est ça. Alors, faut quand même le préciser et on va le redire. On est dans une église, dans un baptistère, et donc forcément, selon l'endroit, ça peut rendre différemment. Et c'est quelque chose que je dis aussi. Et on en discutait d'ailleurs en amont, puisque moi je cache rien. Je n'ai pas non plus l'équipement nécessaire pour recevoir.
Justifions pas. C'est le direct. C'est mon choix aussi d'avoir poussé la chansonnette au risque de de faire s'écrouler l'église.
Non, parce que je me suis dit. J'aime ton côté artistique, j'aime ce que tu dégages, j'ai envie de te recevoir. Et après, je me suis dit, ah merde, je reçois une chanteuse. Enfin, merde, bon, ça, quoi, voilà. Enfin, on se comprend. Je me suis dit, mince, voilà, je reçois une chanteuse, donc ça serait idéal que je la fasse chanter. Je regarde mon équipement, je fais, oula.
Et tu sais que nous, c'est un Zoom. Nous, on enregistre nos répètes sur Zoom. On règle les fréquences, on règle tout ça, mais
si on répond. Donc après, t'inquiète pas, je te l'envoie avant et je mets d'autotune par-dessus. Et
quelques effets. Si d'ailleurs tu pouvais, avec l'IA maintenant, tu prends la voix de Beyoncé et tu la mets à ma place, en français.
Ah non, mais tu sais que moi j'ai vu des choses, bon, on divague un peu, mais finalement c'est pas plus mal. Je divague un peu, mais c'est aussi intéressant à parler comme sujet. J'avais pas du tout prévu, mais ça vient dans les discussions. En fait, j'ai vu des trucs dans l'intelligence artificielle, que ça soit d'ailleurs dans le journalisme ou dans la chanson ou dans le podcast, t'as pas peur de te faire remplacer par une intelligence artificielle?
Mais c'est incroyable. Pour l'instant, à mon niveau, moi, j'ai pas forcément peur parce que je pense qu'ils vont surtout reprendre ou tout du moins recopier les choses de grands artistes, en tout cas très connus. Pour l'instant, j'ai un peu de marge, mais non, pour l'instant, j'ai pas peur. Après, non, je n'ai pas peur. Pour l'instant, je n'ai pas peur. Et d'ailleurs, je change complètement de sujet, mais j'ai oublié de remercier quelqu'un. Je voulais remercier aussi Pierre-Marie, qui du coup est le chef des lieux de l'église brasserie Saint-Nicaise, Frédéric, aussi pour m'avoir ouvert les portes de l'église, parce que c'est pas forcément facile de trouver des lieux, voilà. C'est pas parce que on a fait coup de foot, c'est pas parce que on s'appelle Claire Oignan, voilà, déjà je n'ai aucune prétention, voilà.
Ah bon?
Mais que les portes s'ouvrent, pas du tout, hein. Il y a des fois je vais demander à 3-4 endroits pour faire un truc, on va me dire non. Donc je les remercie parce que ça nous permet de nous exprimer, de faire de belles choses. Donc merci Pierre-Marie, merci Frédéric et merci aussi à l'équipe qui s'est aussi adaptée à moi parce qu'ils ont respecté, ils ont attendu qu'on finisse.
Vous avez tourné ça l'après-midi ou
On a commencé en fin de matinée. Ouais. On a commencé en fin de matinée et en fait, on a fini vers 18h. Et eux attendaient pour agencer, mettre les tonneaux à l'intérieur de l'église. Donc, nous demandaient, vous avez fini quand? Voilà.
Parce qu'en fait, on le dit d'ailleurs, le lieu ouvre à 18h au public, c'est ça, hein, pour là, voilà. Ouais. Donc là, actuellement, à l'heure où on parle, là, c'est ouvert. Donc, oui. Voilà.
Et donc, il y en a qui sont en train de boire quelques bières de la brasserie Ragnar.
Effectivement, un coucou à Pierre-Marie, à Fred et à titre personnel à Céline, que je ne sais pas si tu connais.
Oui, que j'ai rencontré, ouais. qui m'a envoyé un petit message avant qu'on se voie et je
l'embrasse particulièrement. Tu sais pourquoi? Parce que en fait, quand je lui ai dit, c'est une amie à moi, quand je lui ai dit que j'allais t'interviewer, elle m'a dit, Claire, c'est vraiment un amour de personne. Et bah franchement, je suis pas déçu.
Eh bien, elle m'a dit la même chose sur toi quand elle m'a envoyé son message et qu'elle était très heureuse qu'on partage ce moment humain et artistique aussi puisque j'ai beaucoup aimé c'est pas forcément souvent qu'on rentre dans le dans les sujets profondément pour une question là de timing et même de chaîne éditoriale, est-ce qu'on dit ça,
ligne éditoriale.
De ligne éditoriale, merci. Et donc c'est toujours plaisant de pouvoir raconter des petites anecdotes et de partager plus légèrement. Et puis en fait, on se rend compte que dans l'exercice, c'est beaucoup plus facile là par exemple, j'ai réussi à dire des choses en tout cas que je voulais dire et où j'étais assez frustrée sur d'autres choses.
Mais
parce que c'est plus naturel et on se met moins la pression.
C'est justement en fait une des questions que je voulais te poser à la fin. Est-ce que tu as encore des choses que tu aurais aimé dire, que tu voudrais dire, des choses que tu voudrais partager à ton public, aux gens qui nous écoutent et qui vont écouter qui écoutent le podcast normalement?
Moi, j'ai rien à redire parce que pour une fois, je pense avoir abordé des choses qui me paraissaient importantes et même des choses, des petites anecdotes. Voilà, le froid dans l'église pendant le tournage, j'en avais jamais parlé. Et en fait, c'est une réalité, c'est la réalité du terrain.
Ouais.
Peut-être ce que je voudrais rajouter, c'est remercier les médias locaux. Et là, je cible pas, comme on parlait de Star System, je cible pas les gros médias et je n'écarte pas les plus petits, les plus modestes, parce que pour moi, il n'y a pas de petits médias.
Merci.
Et en fait, le but d'un média, c'est de parler de ce qui se passe, de ce qui se fait, et chacun a son but et sa ligne éditoriale. Mais en tout cas, merci, parce que c'est ce qui nous permet à nous, artistes, d'avoir cette visibilité qui nous crédibilise, même si parfois, il y a juste de la forme et pas de fond. Je parle d'artistes, là je juge. Je fais une partie de jugement de artistique.
Mmh.
Mais merci de mettre en avant des petits artistes comme moi et voilà.
Avant de te laisser le mot définitif de la fin, puisque de toute façon chez moi le mot de la fin revient systématiquement à l'invité. À l'image de ce que tu as dit, je pense que c'est important de le redire sur les grands et petits médias, il n'y a pas de grands artistes et de petits artistes dans la manière de ce que tu as partagé et dans ce que tu partages. La différence se fait bien entendu factuellement sur le degré d'exposition, qui forcément là est différent, mais sur la qualité artistique, chacun exprime de manière unique cette différence et ce qu'il a à partager.
Oui, c'est exact. En fait, tu viens de reformuler beaucoup plus, avec beaucoup plus de tact et beaucoup mieux que ce que j'ai voulu dire sur des artistes qui parfois sont en effet très médiatisés, mais où potentiellement, voilà, ce qui fait la différence, c'est juste l'exposition et...
Et justement, cette question-là, je l'avais pas prévue, mais j'ai quand même envie de la poser. Bon, l'idée, un jour, de te dire de te produire devant des très grandes scènes ou un très vaste public, c'est pas quelque chose qui... T'as passé les auditions de The Voice, d'ailleurs. Voilà. C'est quelque chose qui, en même temps, tu dois en avoir envie, mais est-ce que ça te fait peur ou qu'est-ce que ça t'évoque?
Ça m'impressionne d'y penser. Ça me fait pas peur parce que j'aime la scène, j'aime les grandes scènes, parce que en fait, il faut savoir que je me sens plus à l'aise sur des grandes scènes que dans la rue, sur des petites scènes, sur des petits formats avec des gens très proches, parce que ce que ressentent les gens m'atteignent beaucoup plus quand les gens sont très proches de moi et quand c'est des formats très intimes, et ça me trouble beaucoup. Parce que je suis assez empathique et donc en fait j'arrive moins à me protéger de ce que les gens ressentent, dans le bien ou dans le mal, dans le jugement positif ou négatif. Mais les grandes scènes me protègent un peu de ça et donc j'arrive je peux plus me lâcher sur le chant et l'interprétation parce que je me sens moins dans l'empathie.
Et pourquoi The Voice, du coup?
Pourquoi The Voice? Alors, je ne regarde pas la télé. Quelques séries de temps en temps. Pourquoi The Voice? Parce que j'aime chanter. J'aspire à potentiellement vivre de la musique, et puis parce que on me demande souvent ah, pourquoi tu fais pas The Voice, ah, t'as pas fait The Voice. Donc il faut savoir que The Voice, ça va faire la troisième fois que je fais les auditions.
Ah d'accord, ouais.
Donc on dit jamais 203 peut-être.
Ouais.
La première fois, je suis allée jusqu'à Paris. En fait, j'ai été castée par un chasseur de tête. Je suis arrivée directement à Paris.
Ok.
Pas fait les présélections. Je suis arrivée directement là-bas. La deuxième fois, j'ai été prise aux présélections. Je n'ai pas réussi à aller jusqu'à Paris.
Ouais.
Et cette fois-là, on m'a redemandé des vidéos pour revoir avec des vidéos de moi qui interprétaient la même chanson que j'ai fait pendant les auditions.
Ouais. Quand tu dis juste pour papa et que je comprenne bien et que nos auditeurs comprennent bien, quand tu dis que tu es allé jusqu'à Paris ou aller directement à Paris, c'est-à-dire que tu n'as c'est pas le moment où tu passes des auditions à l'aveugle aussi,
Non. T'as les auditions de Paris où tu es 300, 400 avec ton étiquette, et puis tu passes devant les gens, et puis à la fin on te dit oui ou non. Mais c'est toujours en off. C'est pas le moment
D'accord.
À l'aveugle d'audition. Ça c'est après, c'est l'étape d'après. C'est
Ouais.
comme si tu avais une, deux, peut-être deux, potentiellement deux ou trois étapes, quoi.
Et donc j'imagine, sans pousser une porte déjà ouverte, mais de te dire, en fait, de ton but, toi, dans The Voice, ça serait de te dire, justement, ça va parler d'ego. Est-ce que tu vas te dire, est-ce que j'ai les capacités d'aller gagner? Ou si j'arrive à une audition à l'aveugle, je suis déjà contente.
Oui, si j'arrive à une audition à l'aveugle, je suis déjà contente.
Même si personne ne se retourne.
Même si personne se retourne, bah forcément. Hein. Alors là, je dis ça comme ça, le jour J.
Ouais.
Je suis quelqu'un qui me remet beaucoup, beaucoup en question. Et même si j'y vais en me disant, bon, allez, voilà, si ça m'empêchera pas de faire de la musique, ça ne m'empêche. Enfin, je n'arrêterai pas, même si je rate. Ça ne veut pas dire que je suis mauvaise. Forcément, ça met quand même un petit coup, puisque voilà, on
Bien
se
sûr.
pose quand même des questions sur soi-même. Est-ce que ça vaut le coup, etc. Quand on en arrive jusque-là, mais je serais déjà contente du chemin parcouru. Et puis, voilà, faut pas que The Voice soit une fin.
Ouais.
C'est pas ma fin.
Ouais. Sachant qu'on le précise, parce que c'est important de le préciser, The Voice, c'est déjà des gens qui savent chanter. C'est-à-dire que c'est pas. Bon, alors j'ai l'exemple. Je vais raconter une très courte anecdote que je couperai sans doute au montage et je la mettrai dans le bêtisier. En fait, quand j'avais 16-17 ans, je voulais faire le casting de Nouvelle Star juste pour apparaître parmi les plus nuls et faire rire.
Ça peut être
Voilà, je voulais faire des conneries et chanter devant les quatre jurés pour essayer de faire rire un peu le monde. Non, on fait face à des gens qui savent chanter, quoi,
Oui,
qui ont mais
ils savent
déjà.
chanter. Et puis attention, quand tu es casté, ils essaient de se projeter. Bon, la première fois où je ne suis pas passée, on m'a dit on ne s'imagine pas à l'émission. Il y a une question de prestance, il y a une question de peut-être de regard, de ce que tu dégages aussi. Par contre, avec le recul, je comprends pourquoi je n'ai pas forcément été prise au début,
Et alors?
parce que j'avais pas du tout cette assurance, parce que je pense que j'ai beaucoup misé là-dessus. Maintenant, j'y vais en me disant ça ne m'empêchera pas de faire de la musique, et j'ai très peur pour les gens. En fait, parfois ça m'angoisse d'y penser, pour les gens pour qui The Voice est une fin, c'est-à-dire que si jamais ils ratent le casting,
C'est
leur
tout est
vie
fini, quoi.
s'arrête,
Ouais.
ils ne seront plus jamais chanteurs. Et ça m'angoisse de penser qu'il y ait des gens qui pensent comme ça, parce que comme on disait tout à l'heure, quand on veut faire un métier passion, qu'on veut chanter ou qu'on veut faire autre chose, il faut y aller à fond. Et on en entend plein, hein, des gens, oui, ce qu'il a fait, c'est nul, ou même des voilà. Ben, en fait, si on s'arrête à ça, les avis des autres,
Mais
les gens donnent toujours leurs avis.
on crée rien et en fait on ne fait rien de sa vie d'ailleurs.
Mais oui, non, mais c'est ça.
Le seul moyen d'assurer sa sécurité, c'est de rester chez soi dans son canapé.
Oui, puis ça peut être la facilité, mais de toute façon, on touchera toujours des gens, et on fera des mécontents ou des envieux qui seront mécontents parce qu'ils sont envieux.
Ouais.
Mais voilà, faut pas s'arrêter à se dire oui, mais si ça plaît pas, si non, quand on fait quelque chose et pour que ça réussisse, parce que ça nous plaît à nous et qu'on va tout donner pour que.
Et si on te proposait la Starac?
Ben pourquoi pas? Pourquoi pas
Le côté un peu, moi je me suis toujours demandé, parce que là, de le côté Starac, il n'y a pas que le côté chanson, il y a le côté aussi, on montre dans un château avec des caméras tout le temps, dans des positions qui sont peut-être pas favorablement toujours en permanence à ton avantage, quoi.
Alors, moi, j'adore l'autodérision. Je pense que pour ceux qui me suivent sur Instagram et ceux qui travaillent avec moi, il faut savoir que je fais du travail sérieux, mais sans me prendre au sérieux.
Ça se voit, ouais.
Et en fait, j'aime beaucoup rire de moi parce que je trouve ça important. Il faut pas se prendre pour voilà. Comme on disait tout à l'heure, on nous voit dans des médias d'une certaine façon. Dans le clip, voilà, je suis super bien maquillée, très à mon avantage vestimentairement. Je dis ça, j'espère. Mais faut savoir que voilà, moi dans la vraie vie, si les gens me suivent sur Instagram et suivent l'Instagram de mon compagnon, voilà, c'est-à-dire que c'est la réalité. Il y a des moments de réalité et je n'ai pas honte du tout de ça. Et
non, parce que là j'imagine que c'est déjà fait parce que les castings, je le sais, ils sont en cours pour la startup. Mais oui, c'est quelque chose que tu pourrais.
Oui, je pourrais l'imaginer tout à fait. Moi, tant que je chante, j'ai pas de. Oui, mais c'est ça, c'est un truc. Voilà, c'est le jugement en fait. J'ai pas.
Et d'ailleurs, je me permets juste une petite phrase. D'ailleurs, je trouvais, parce que j'ai vu Nikos, en fait, je trouvais que le gars était super gentil.
Il était très gentil. J'étais sur l'émission où était Nikos, sur l'émission du département. J'ai présenté la programmation que j'avais proposée pendant l'Armada. Et donc, il était là. Il considère vraiment les gens. On a beaucoup parlé. Je lui ai parlé que j'allais faire le lendemain les auditions The Voice. On a vraiment échangé, vraiment, le gars te regarde vraiment. Il s'est rappelé des personnes qui étaient sur le plateau, qu'il avait croisé il y a 2 jours ou la veille pendant l'inauguration. Ouais. Enfin, voilà.
Ce qui est assez incroyable quand on voit l'emploi du temps, en fait, et comment gérer le rythme de vie de ce style de personne.
Ah, mais oui, le lendemain ou la fin de semaine, il était sur un plateau de télé, il repartait juste après. Enfin, oui, non. Déjà que moi, je ne me rappelle pas tous les noms de gens avec qui je travaille. Attention, si vous m'écoutez, les collègues, excusez-moi.
Tu m'auras oublié complètement, et je t'aurais oublié complètement 10 minutes après qu'on ait coupé.
Ouais.
Un petit mot de la fin pour ceux qui nous écoutent, et qu'est-ce que tu as envie de dire, de rajouter? T'as le droit de dire que t'as détesté cette interview et que tu ne reviens jamais.
Non, comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé. Pardon.
Ça, je peux le couper.
Non, comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé parler de choses dont je parle pas forcément habituellement. Et puis le contexte podcast où au final, voilà, on est juste deux et où en effet, ça met à l'aise. Il n'y a pas de pression non. Et puis de toute façon je ne sais que voilà je ouais remercier les gens pour voilà j'aime profondément les gens et je les remercie de m'écouter et je les remercie de m'accompagner et puis de me permettre parce que même les gens qui ont fait ce clip il y a les gens qui font les choses directement c'est-à-dire qu'on mesure ce qu'ils font et on le voit. Et il y a les gens en fait qui se rendent pas compte qu'en fait ils sont moteurs et ils ont contribué à ce que tout ça soit possible. Et donc les gens qui m'entourent et qui m'aident à croire aussi en ce que je fais puisque parfois j'ai des doutes. Et donc
bravo, tu es humaine.
Oui. Non mais c'est bien aussi de faire sa petite son autothérapie.
Petite introspection.
Son petite introspection.
Alors je n'avais pas imaginé un jour ouvrir un cabinet de psychanalyse. Et peut-être qu'un jour j'y songerai. Bon, ce serait ma 4e reconversion professionnelle.
34 ans. Non mais je voulais dire que moi aussi j'aime beaucoup créer. Donc je pense que je suis quelqu'un qui ne peut pas rester dans un métier éternellement. Et j'ai trouvé quelque chose qui me convient énormément parce que je crée des projets événementiels, donc je les construis. Mais sinon, j'ai besoin d'apprendre sans cesse. Et donc, j'ai besoin de changer de métier, de créer des choses, de rencontrer toujours plein de monde. Et j'aime beaucoup ça.
Merci beaucoup, Claire. C'était un vrai plaisir et un
Merci
vrai bonheur
beaucoup.
d'avoir cet échange. Et quand tu sors, il y a quelque chose, un nouveau titre, un nouveau single, un nouvel album, tu es toujours la bienvenue. La porte te sera toujours ouverte sur le podcast Normand.
Eh bien, je reviendrai avec grand plaisir.
Merci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je voudrais profiter de la fin de cet épisode pour adresser un merci tout particulier à l'équipe du Ragnar, et en particulier Pierre-Marie, pour sa bonne mise à disposition des lieux et pour le confort qu'il nous a assuré pendant cet enregistrement. Quant à nous, on se retrouve pour le dernier épisode de la saison la semaine prochaine avec Christelle Froger du blog L'Atelier de Christelle. À la semaine prochaine sur le podcast Normand.